Alors, bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? J'ai l'impression que oui. On va démarrer avec un petit peu de retard, ça risque de continuer à arriver doucement, mais on va se lancer parce qu'on a beaucoup de choses à se dire. Alors, vous avez peut-être remarqué, mais des conférences sur la CSRD à Pro Durable, il y en a 22. Normalement, celle-ci, elle sera un petit peu différente, parce que depuis novembre dernier, on lit des livres blancs, on lit des gap analysis, on regarde des webinaires sur la CSRD. Et depuis novembre, on a quasiment tous en tête quelles sont les grandes règles de la CSRD, à qui ça s'applique, quelles sont les grandes thématiques qu'il y a derrière. Mais on s'est rendu compte en fait que petit à petit, les entreprises qui voulaient se lancer concrètement dans la CSRD, elles étaient un petit peu paumées. Parce qu'on est d'accord, je comprends la logique. Je comprends la vision macro, la stratégie de la CSRD, mais concrètement, demain, je veux me lancer, je veux faire ma transition, je veux commencer à piloter, à structurer, à comprendre quels sont les KPI et les indicateurs précis qui seront importants pour moi. Et là, on est tous à la ramasse. Même les experts, les cabinets de conseil sont au démarrage aujourd'hui. Alors, je vous propose un truc un petit peu différent. Et on va rentrer directement dans le vif du sujet. On va passer toute la phase de qu'est-ce que c'est que la CSRD? Les grandes, la théorie, on va rentrer directement dans la pratique. Et normalement, à la fin de cette conférence, vous aurez toutes les clés pour commencer à vous y mettre dès demain. Alors, normalement, sinon on sera là pour ça, mais je ne serai pas vendeur de tapis aujourd'hui. Alors, concrètement, la CSRD, ça, vous l'avez en tête. Il y a trois grandes catégories de piliers dans la CSRD. Vous avez les normes transverses, communes à tout le monde. Vous avez les ESRS thématiques, E, S et G, qui ont été publiées et qui sont aujourd'hui connues. Et vous avez les normes sectorielles qui vont être dévoilées et qui vont toucher l'énergie, la banque et quelques secteurs assez spécifiques. Bon, ça, normalement, c'est à peu près clair pour tout le monde. Mais derrière, la question qui pique un peu, c'est ça. Dans la CSRD, il y a 550 points de data, indicateurs, qui sont proposés dans 350 pages en anglais, avec des phrases qui font 10 lignes, donc c'est pas encore en français. Et dès qu'on doit passer de la théorie à la pratique, aujourd'hui, c'est quand même très compliqué. 550 data, c'est le nombre d'indicateurs chiffrés, les ratios et les politiques qu'on va devoir concrètement structurer pour faire la CSRD. Comment c'est structuré? Vous avez deux types d'indicateurs. Vous allez avoir les indicateurs plutôt qualitatifs, qui représentent un petit volume, une petite part des DR, des Disclosure Requirements. Par contre, tous les indicateurs narratifs, le qualitatif, on va devoir en parler. Donc, ils seront imposés un petit peu à tout le monde. Contrairement aux indicateurs quantitatifs, qui sont beaucoup plus nombreux quand on regarde les 550 points de data, mais beaucoup d'entreprises vont pouvoir mettre de côté un grand nombre de ces critères quantitatifs. Donc, au final, la part des critères quantitatifs va baisser, notamment pour les entreprises qui sont dans le service, qui ont beaucoup moins d'indicateurs quantitatifs que celles qui sont dans l'industrie. Ça, on va y venir. Donc, dans ces deux types d'indicateurs, sur les qualitatifs, vous avez cinq grandes typologies d'indicateurs. Vous allez avoir des questions sur les actions et la stratégie que vous mettez en place. Dans le qualitatif, ce qu'on attend de vous, c'est du descriptif, c'est du narratif, c'est d'expliquer, de décrire votre politique, vos actions, les ressources que vous mettez en place pour l'eau ou la biodiversité, les politiques que vous avez définies, les objectifs que vous avez chiffrés en expliquant comment les atteindre, et la description narrative des risques et des opportunités en lien avec un sujet. Donc ça reste très macro, mais si on rentre dans des exemples très précis, il y a certains indicateurs qualitatifs qui sont assez simples parce que la CSRD va vous aider grâce aux annexes. Notamment, par exemple, quel est le niveau hiérarchique de traitement des déchets que vous faites dans votre entreprise? Il vous donne les exemples de niveau hiérarchique, donc il vous guide, et ce sera à vous de définir à quel niveau vous êtes. Donc ça, c'est un des plus simples. Mais dans les qualitatifs, il y a aussi des indicateurs qui sont beaucoup plus funky, comme celui-ci, qui reste à peu près simple, mais il y a plusieurs conditions. Si j'ai la politique ou le processus, alors je dois préciser tel élément de telle manière en prenant en compte tel périmètre. Donc c'est une structuration qui va demander quand même un petit peu de temps pour formaliser le contenu qui est attendu en interne. Et il y a d'autres types d'indicateurs où les frags, ils ont un peu pété un câble et ça nous a presque coûté des arrêts maladie en interne. Donc là, je suis même pas en bas, hein, ça, il faut scroller pour voir la suite. Mais il y a certains indicateurs qui sont très complexes, avec énormément de paragraphes à rajouter pour proposer quelque chose qui est complet ou en tout cas aligné avec les attentes de l'EFRAG. Donc ça, ce sont pour les indicateurs qualitatifs. Il y en a à peu près entre 5 et 15 par ESRS. Donc il reste quand même peu nombreux, mais par contre, ça met du temps à structurer et à formaliser. Et de l'autre côté, on va avoir les indicateurs qui sont plus intéressants, ceux qu'habillent les indicateurs qualitatifs, qui sont les indicateurs quantitatifs. Donc il y en a deux types. On va avoir les valeurs et on va avoir les ratios. Et les deux sont importants, les valeurs absolues et les intensités qui permettront derrière de pouvoir comparer les entreprises du même secteur entre elles sur les mêmes bases. Donc on a les données d'impact absolu, un volume de CO2 relative, une intensité carbone, mais on va également avoir des indicateurs d'impact financier. Donc là, ça va être les montants, par exemple, de mon chiffre d'affaires qui est exposé au réchauffement climatique. Donc ces indicateurs-là sont soit des indicateurs en tant que tels, une valeur attendue, mais ils peuvent parfois être structurés pour dépendre de deux valeurs sous-jacentes. Et la CSRD demande, par exemple, pour la consommation d'électricité non renouvelable, si on a l'information de séparer ce qui est produit en interne et ce qui est tiré du réseau, par exemple. Mais ce n'est pas obligatoire, c'est plutôt suggéré. Vous allez avoir des données assez chiffrées, avec des cadrages très précis. Donc, par exemple, quel est le poids des matières premières que vous consommez qui sont issues de sources régénératives ? Donc ça, normalement, personne ne l'a fait parmi vous, sauf ceux qui ont fait la CEC, qui ont été accompagnés par des entreprises à impact, parce que là, on est vraiment dans la transformation des modèles. Donc à chaque fois, ils vont vous donner des annexes, des guides, des liens sur lesquels vous allez pouvoir aller, pour monter en compétence, comprendre ce que c'est qu'une ressource régénérative, et être en mesure de pouvoir compléter tout ça. Les indicateurs en ratio, bon, ils sont assez basiques, hein, c'est simplement une valeur au-dessus, une valeur en dessous, et c'est ces critères-là qui permettront la comparabilité de la donnée. Mais pour faire ces ratios, pour faire ces intensités, ces pourcentages, il faudra dans tous les cas avoir maîtrisé les deux valeurs qui en dépendent. Et ça, il y en a à peu près 350 à 400 si on fait tous les ESR, tous les 550 points de data. Donc il y en a quand même beaucoup. Il faut les avoir en tête. Et vous avez les indicateurs financiers également. Et là, c'est vraiment l'exposition d'un enjeu à votre entreprise en termes de risques et d'opportunités, qu'il faudra savoir qualifier. Si vous ne l'avez jamais fait, je vous conseille fortement de vous équiper d'un cabinet de conseil. Si vous l'avez déjà fait, vous pouvez continuer à le faire avec la CSRD. Bon, on va laisser comme ça, parfait. Alors, maintenant qu'on a dit ça et que je vous ai fait peur avec le 550, on va rentrer dans le concret, surtout comment est-ce qu'on fait la transition entre toutes les données que vous maîtrisez déjà aujourd'hui et les données de la CSRD qu'il faudra maîtriser demain. Alors, une petite question, qui parmi vous est une entreprise qui sera soumise à la CSRD ? On a bien la moitié de la salle, qui ici est un cabinet de conseil qui va faire de la CSRD. On rajoute un petit 25%, les 25% restants, c'est peut-être votre kiff, la CSRD, je ne sais pas. Mais qui parmi vous a déjà structuré les 550 data, a choisi les bons indicateurs et fait sa analyse d'écart, la gap analysis entre vos données et les données de la CSRD? Même pas une. Ah si, une. Bravo. Alors, dit comme ça, ça fait peur, mais concrètement, c'est assez simple dans le process. Il y a trois étapes pour passer de votre donnée actuelle à la donnée de la CSRD. La première, vous la connaissez normalement, ça fait partie des macros de la CSRD, c'est de réaliser votre analyse de double matérialité. Donc ça, c'est le point de départ. Les deux suivantes dépendent de cette analyse. Donc, quelle que soit votre entreprise, il faudra commencer par ça. Si vous l'avez déjà faite en interne, vous êtes un EDF, vous pouvez garder votre process interne. Si vous n'avez jamais fait ce genre d'analyse, encore une fois, gros conseil, faites appel à un consultant au moins la première année pour vous aider à le paramétrer et avoir la culture. On va voir ce que c'est exactement que cette analyse dans un instant. La deuxième étape, et là ça va être assez funky, j'ai un tableau qui va vous faire mal à la tête, donc je vous préviendrai un petit peu avant. Il faut récupérer la liste des 550 data et identifier pour chacune d'entre elles, est-ce que c'est une donnée qui est matérielle pour mon entreprise ou pas. Et il faut faire ça pour toutes les données, pour mettre de côté les indicateurs non matériels, pour passer des 550 données à 400, 300, 200, dans le conseil peut-être 150, ou ceux qui font du service, pour faire le tri dans tout ce qui ne serait pas important ou pertinent pour votre entreprise. Troisième étape, la gap analysis, l'analyse d'écart. Prendre toute la donnée que vous maîtrisez déjà sur de l'ESG en interne. Donc, en général, même dans des boîtes assez structurées, on n'a pas plus de 20 à 30 indicateurs existants. Parfois, on en a des centaines. Mais il faut récupérer tout ça et il faut faire l'analyse d'écart, donc le mettre en concordance avec tous les indicateurs de la CSRD que vous aurez déjà définis. Alors, concrètement, comment ça se passe sur ces trois étapes ? La première, c'est d'analyser pour chaque ESRS, chaque enjeu. Est-ce que cet enjeu est matériel, impactant sur l'environnement et la société ? Parce que mon entreprise impacte négativement ou positivement l'eau, la biodiversité ou les parties prenantes. Mais il faut aussi le faire dans l'autre sens. C'est s'il y a un dérèglement climatique trop fort ou un cycle de l'eau qui est déséquilibré, comment ça va impacter mon entreprise financièrement ? Donc ça, c'est les risques et les opportunités. Donc l'analyse de double matérialité, normalement, vous permettra d'identifier parmi tous les enjeux environnementaux et sociaux, lesquels sont importants pour votre entreprise et lesquels sont moins matériels, moins importants, moins critiques, moins impactants, ce qui seront des enjeux qu'on pourra mettre de côté. Donc on commence par ça, point de départ, ça peut prendre un petit peu de temps, notamment si vous n'êtes pas déjà très à l'aise avec la matérialité financière, si vous ne l'avez jamais fait avant. Mais on doit passer par là pour passer à l'étape 2, qui est beaucoup plus complexe normalement. Cette étape 2 consiste... J'espère que vous avez pris des cafés. Une fois qu'on a la matrice de double matérialité, enfin l'analyse de double matérialité, on va rentrer dans chacun des ESRS. Climat, biodiversité et l'eau. Est-ce que cette ESRS est matérielle pour mon entreprise ? Si jamais je fais du transport logistique, peut-être que l'eau n'est pas forcément matérielle pour moi. Par contre, le climat, l'énergie, là oui. Donc on fait cet exercice pour chaque ESRS. Si l'ESRS n'est pas matériel pour mon entreprise, vous pouvez le mettre de côté. Donc parmi les 550 points de données, qui sont dans 12 ESRS, vous pourrez mettre de côté certaines grandes catégories qui vont enlever 50, 100 indicateurs d'un coup. Donc là, c'est un petit peu rassurant, c'est qu'on ne doit pas parler des 550 données. Uniquement des données rattachées aux ESRS qui sont pertinents pour moi. Dans le cas du premier sur le climat, si vous décidez de l'omettre, vous devez justifier pourquoi. Ça, c'est important. C'est que si vous considérez que ce n'est pas matériel le climat, très bien, mais expliquez-le. Si c'est l'eau, la biodiversité ou les autres ESRS, vous pouvez l'omettre, mais là, il n'y a pas besoin de le justifier. C'est une des dernières modifications de la CSRD qui a fait beaucoup de bien aux entreprises psychologiquement, mais ça permet voilà, de simplifier un petit peu la structuration de la CSRD. Une fois qu'on a défini qu'un ESRS était pertinent pour mon entreprise, il faut regarder quel type d'indicateur c'est. Est-ce que c'est un indicateur qualitatif ou quantitatif ? Si c'est du qualitatif, les politiques, les objectifs, les ressources et les actions, si vous l'avez cette information, si vous avez une politique, alors vous êtes obligé de la divulguer, encore une fois, si c'est rattaché à un enjeu qui est matériel pour vous. Si vous n'avez pas une politique, vous n'avez pas un objectif, vous n'avez pas des actions ou des ressources, alors vous devez expliquer quand est-ce que vous les aurez mis en place. Donc on peut l'omettre, mais pas très longtemps, parce que si ça fait 10 ans que je mets rien en place, au bout d'un moment ça va se voir, et dans tous les cas il faudra que je le dise chaque année, que ça sera pour 2025-2030. Donc ça c'est à la limite ce qui est plus simple, c'est que si un indicateur qualitatif est rattaché à un enjeu qui est matériel, alors je dois en parler, pas de complexité. Ça devient un petit peu plus précis quand on rentre dans l'indicateur en valeur et en ratio. Donc quand on rentre dans les valeurs et les ratios, on doit identifier est-ce que le sujet est matériel pour mon entreprise. Donc, par exemple, est-ce que la pollution des sols est un enjeu matériel pour moi si je suis un logisticien ? Si c'est non, alors j'ai le droit d'omettre tous les indicateurs qui vont être attachés à la pollution des sols. Si l'enjeu est matériel pour moi, je rentre dans la liste des dizaines d'indicateurs chiffrés qui sont proposés par la CSRD, soit dans le corps du texte de loi, soit dans les annexes. Et on doit identifier pour chacun d'entre eux, est-ce que cette donnée précise et chiffrée est matérielle pour moi ? Si la pollution des sols est importante chez l'agriculteur, tout ce qui va être lié aux produits phytosanitaires, aux pesticides, c'est matériel. Il faut que j'explique. Si on est sur des indicateurs liés au sol, mais qui n'a aucun sens par rapport à mon activité, vous avez le droit de l'omettre, sans le justifier. Donc vous allez pouvoir faire le tri, grâce à ça, entre tous les indicateurs qui sont dans un enjeu matériel pour vous et les indicateurs qui n'ont pas forcément d'intérêt ou de pertinence par rapport à votre activité. Donc normalement, après avoir mis en place ce process, on part de 550 points de données. On devrait arriver à 150, 200, 250, ce qui divise déjà presque, enfin, 2 ou 3 toutes les données dont on aura parlé dans la CSRD. La bonne nouvelle, c'est que bon, c'est chargé. Je ne vais pas vous dire qu'on va le faire en une semaine. Par contre, quand vous l'avez fait la première année, normalement, il y a peu de chances qu'on ait besoin de changer. Et vous avez le droit à l'erreur. Si, par exemple, vous décidez qu'un indicateur ou qu'un enjeu n'est pas matériel pour vous au démarrage, il y a votre organisme tiers indépendant, l'OTI, qui va pouvoir retrouver cette liste, vérifier ce que vous avez tagué comme étant non matériel, et pourra vous dire, attention, cet indicateur-là, rajoutez-le quand même, vous l'avez omis, mais il reste matériel, donc vous pouvez toujours y revenir et vous l'intégrer plus tard. Donc pas de stress, en tout cas, sur la première année, tous les commissaires aux comptes, les OTI seront normalement à peu près sympas, ils vous aideront à co-construire quels sont les indicateurs matériels ou non. Mais l'important, c'est d'avoir quand même gardé quelque part quels sont toutes les datas que vous avez considérées comme étant non matérielles, pour pas que ça soit rayé de la carte, que ça reste dans un coin pour pouvoir le montrer à l'OTI et qu'il donne son accord ou pas sur cette sélection que vous avez faite. Est-ce que là, on est à peu près clair sur l'étape 2 ? Je vois des gens qui sont désespérés mais qui ont l'air d'avoir compris quand même, donc c'est bien. Étape 3. Alors, ça c'est un exemple, mais si vous avez une liste d'indicateurs, pour chacun d'entre eux, vous pouvez dire ça je le raye, ça je le garde, pour faire votre sélection parmi les 550 points de data. Et on arrive à l'étape 3 qui est l'analyse d'écart. Alors, ça c'est ce que certains cabinets de conseil dont je tairai le nom vous vendent à 100 000 euros pour les très grandes boîtes. Il y en a peut-être ici. Et c'est normal parce que c'est un gros travail. Ça consiste à prendre toutes les données que vous gérez, 2022, 2021, 2020, et de regarder en quoi est-ce que ces données s'alignent avec tous les indicateurs que vous aurez sélectionnés à l'étape 2. Donc s'il y avait 250 indicateurs et que dans la CSRD qui sont pertinents pour vous et que vous avez en interne 300 points de données, il faut les faire matcher pour arriver à quelque chose qui ressemble à ça, qui est la liste de tous les indicateurs qui sont demandés dans la CSRD, qui sont importants pour moi et que je gère déjà. Et quels sont les indicateurs qui sont importants pour moi, mais que je ne pilotais pas encore jusqu'à présent. Cette analyse d'écart, ça va être un peu compliqué la première année, mais la bonne nouvelle, c'est qu'encore une fois, elle ne va faire que la première année. Parce qu'une fois que vous avez intégré la donnée historique, normalement, après, vous n'avez qu'à piloter votre projet au quotidien. Donc ça, il y a différentes façons de le faire. Soit ça peut être des analyses d'écart sur un Excel, où vous essayez de faire concordance entre vos données. Soit il y a nous on a une IA qui permet de le faire assez facilement, il y a des algorithmes qui doivent exister ailleurs aussi. Donc il y a des solutions pour faciliter le travail, mais tout dépend du nombre d'indicateurs avec lequel vous partez. Si vous partez avec 30 critères de départ, vous pouvez le faire à la main sur un Excel. Si vous partez avec un ERP complet, là il faudra avoir des algorithmes un petit peu plus poussés. Et pour la petite histoire, chez Zay et nous, on a fait la concordance entre toute la CSRD, le GRI, la SFDR et ainsi de suite, ce qui nous permet d'avoir une petite analyse qui pourrait vous intéresser, qui est en gros la concordance entre tous les référentiels qui existent déjà sur le marché, enfin qui sont déjà utilisés, réglementaires ou non réglementaires, et comment ces référentiels permettent d'alimenter les 550 data de la CSRD. Alors, ça a pris un peu de temps pour faire ça, mais ce qu'on voit, c'est que les référentiels qui sont le plus en concordance avec la CSRD sont le GRI et la SFDR. Donc, comment lire ce tableau ? Par exemple, si je prends bilan carbone en troisième colonne, il y a 26 indicateurs. CSRD, il y en a 61 des points de data dans le E1. Ça veut dire que si j'ai déjà fait mon bilan carbone, j'ai 42% de mon E1 de la CSRD qui sera pré-complété, sur lequel vous pouvez faire une analyse d'écart et aligner les référentiels entre eux. La SFDR, ce qu'on voit, c'est que le pourcentage de couverture entre la SFDR et la CSRD est assez faible, et parce que la SFDR a beaucoup moins d'indicateurs que la CSRD. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que si vous pilotez des données SFDR, ça ne va pas tout compléter dans la CSRD. Par contre, l'inverse marche très bien. Quand vous aurez mis en place la CSRD, ça va quasiment tout cocher côté de la SFDR. Donc ça, si ça devient votre nouveau référentiel central, cette CSRD, ça servira à cocher quasiment tous les autres modèles qui seraient utilisés. Le GRI, beaucoup d'indicateurs, beaucoup de concordance. Pas surtout, on voit vraiment que c'est l'environnement, notamment le climat, qui est le plus aligné avec le GRI et les autres référentiels. Et on a certains des ESRS comme travailleurs chez les fournisseurs, la chaîne de valeur, qui sont très peu en harmonie, on va dire, en concordance avec les autres référentiels les autres référentiels utilisés. Ce qu'on voit aussi, c'est que les référentiels ISO 26000 comme B Corp ou EcoVadis, pour ceux qui l'ont fait, ça ne va pas pour le moment, en tout cas, vous servir énormément pour faire la CSRD. C'était pas une blague, c'est pas moi qui rigolais. Je ne jugerai pas ces référentiels. On voit aussi que IFRS, c'est le concurrent américain de la CSRD. Ils essayent de pousser un truc sans ambition pour devenir la nouvelle norme internationale. Je ne vais pas trop m'épandre là-dessus. Ce qu'on voit simplement, c'est que l'IFRS ne sert pas à grand-chose pour compléter la CSRD. Il n'y a que 18% d'un des ERSS qui sera complété. Donc, il va quand même avoir du travail si vous avez déjà des données qui sont alignées avec ces différents référentiels. Et normalement, vous n'aurez pas plus que 35 à 50% des données de la CSRD que vous allez pouvoir récupérer sur la base de toute la data que vous gérez en interne pour le moment. CDP, on est vraiment sur le E1, donc c'est assez aligné, ça revient un petit peu à ce qu'on retrouverait dans le bilan carbone ou dans le GRI. Mais ça ne couvre que le E1. Donc en même temps, le seul qui est important. Enfin, qui est en tout cas important, pardon. Je reviens en arrière. Le seul qui est indispensable et imposé.
Et CEDEX,
le
CEDEX,
on l'a pas harmonisé celui-là. On en a une cinquantaine au total, mais ouais. J'ai pas entendu le. Pas encore, mais là on en harmonise à peu près deux par mois en ce moment. Donc si vous avez des suggestions, voilà, c'est noté. J'ai mis une petite sélection, mais au total il y en a une cinquantaine. J'ai pris les plus harmonisés. Après tout ce qui va être politique, des cases à cocher comme on peut avoir dans EcoVadis, il y a très 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 peu de liens avec les données de la CSRD. Plus le référentiel utilisé est chiffré, quantifiable, mieux c'est. Après, on va avoir parfois, et ça je ne l'ai pas mis dans le tableau, mais des concordances faibles. Par exemple, dans EcoVadis, on va demander est-ce que j'ai une politique de gestion de l'eau ? Je vais dire oui. Sauf que dans la CSRD, j'ai la question de la politique de l'eau, mais derrière, j'ai plein de conditions, de détails à rajouter, ce qui fait qu'en cochant la case EcoVadis, ça ne sera pas du tout suffisant pour faire la CSRD. Et l'inverse est possible. Vu qu'EcoVadis, en fait, tant que j'ai une politique et un document, ça me suffit. Si je le fais pour la CSRD, derrière, c'est très simple à intégrer dans EcoVadis. Et je doute qu'EcoVadis ne se dise pas, tiens, je ne vais pas accepter le rapport CSRD et la politique telle qu'ils l'ont rédigée. Qui peut le plus, peut le moins, quoi. Donc, y avoir un petit peu de travail, mais une fois que vous avez fait ça, vous avez identifié les impacts principaux, vous êtes rentré dans le détail de chaque data, vous avez mis de côté tout ce qui n'était pas matériel, avec ou sans OTI pour vous guider, ou avec ou sans cabinet de conseil pour vous guider, et que vous avez fait votre gap analysis pour importer tout ça dans un outil, dans un Excel, pour voir en gros ce qui vous reste à piloter. Après, il reste à construire le run, c'est de mettre en place vos outils de pilotage, vos outils de suivi, de former aussi vos équipes pour leur attribuer des données, des objectifs et des éléments à mettre en place. Et c'est là qu'on va rentrer dans le concret. Une fois que cette transition sera faite, c'est un gros travail, mais on l'a fait la première année. Une fois que c'est fait, le plus dur est derrière vous. Et il n'y aura plus qu'à faire votre reporting une fois par an, en assurant que la donnée soit de qualité. Alors, là, j'ai fait une synthèse d'un maximum d'éléments, mais j'ai sous la main un moteur de recherche des critères CSRD, la possibilité de voir à quel référentiel ils sont associés. Donc, il nous reste un tout petit peu de temps. Ce que je vous propose, c'est de passer sur une session de questions-réponses, mais rentrer dans le concret, si vous voulez poser des questions très techniques sur certains indicateurs ou certains ESRS. Allez-y, on est là pour ça. Oui, alors, je crois qu'il y a deux micros, donc on va peut-être en profiter pour le faire tourner. Ou parfait, il y a ça.
J'avais une première question avant d'aller dans les indicateurs, plus sur le... C'est moi qui parle. avant de rentrer dans les indicateurs sur le périmètre et sur les règles de fonctionnement dans le cas de groupes avec différentes usines, par exemple deux usines en France et puis les autres à l'étranger, est-ce que du coup les indicateurs doivent être pour chacune des usines ou uniquement la consolidation ou les deux ?
Alors, si c'est un groupe avec des filiales ou des usines, c'est le groupe qui doit publier son reporting CSRD. Par contre, ça ne veut pas dire que les filiales ou les sites ne vont rien maîtriser sur la CSRD. Si on rentre, par exemple, on va rentrer dans du concret, imaginons qu'on doit faire une usine industrielle, il va y avoir peut-être des enjeux sur les matériaux, les intrants, les déchets, les chutes de production. Donc, si on est sur les matériaux, on va rentrer sur le E5, par exemple. J'étais dedans. Hop. Dans le E5, il va y avoir énormément de valeurs, de données que le groupe est obligé de consolider quelque part. Et parfois, les usines n'ont pas forcément le même ERP que la maison mère. Donc, tout ce qui va être qualitatif, les politiques, les descriptions d'actions, les ressources à mettre en place, les objectifs, tout ça, les filiales ou les sites ne vont pas du tout devoir le gérer. Ce sera géré au niveau du groupe. Mais dès qu'on va rentrer dans des questions très chiffrées, comme par exemple le poids des matières premières qui sont recyclées, le pourcentage des matières premières recyclées, si le groupe doit parler de ça, elle est obligée d'aller collecter l'information auprès des filiales. Donc ça nécessite quand même que les filiales aient un outil ou en tout cas un jeu de données qui leur est imposé par le groupe et aligné sur la CSRD pour qu'elles puissent les remonter une fois par an, idéalement une fois tous les 6 mois, auprès du groupe, pour que le groupe puisse publier son reporting CSRD. Oui, là-bas. On va faire sans micro, on vous entend bien, je pense.
Dans les indicateurs sociaux, il y a en fait tous les indicateurs de la supply chain. C'est-à-dire qu'en gros, quand je prends le truc comme ça, je comprends qu'il faut avoir tous les indicateurs sociaux de tous nos fournisseurs. Est-ce que vous confirmez comment on nuance ça? Parce que, en gros, moi, j'ai compris qu'il fallait tout savoir des employés, des politiques de gestion sociale de nos fournisseurs.
C'est lui qui vous a dit ça, il voulait vous vendre un accompagnement CSRD.
C'est bien possible.
En gros, les indicateurs sociaux très complets, c'est sur le S1. Donc là, il y a 203 points de data, 203 DR. Et sur les travailleurs de la chaîne de valeur, il y en a 27. Et là-dedans, on voit que c'est énormément de qualitatif. Il y a très très peu de quantitatif pour les fournisseurs. À l'inverse, et lui, il fait mal, c'est tous les indicateurs chiffrés que vous devrez normalement savoir maîtriser en interne au niveau de votre propre organisation. Et là, je vais scroller pendant beaucoup de temps. Mais promis, ce n'est pas pour vous vendre Zaï. Oui. Bien sûr, B2SE. Ah, alors. Alors, ça, c'est une bonne question, la B2SE. Alors, je n'avais pas fait, mais on peut le faire ensemble en réel. La B2SE, qui est une loi française, en effet, permet de couvrir énormément d'indicateurs de la CSRD. Donc, si par exemple, je prends la B2SE qui est ici et que je la recoupe avec la CSRD, ben, on voit quand même qu'il y a énormément d'indicateurs qui sont communs, GRI, B2SE. Donc, il y a en effet énormément de valeurs qui sont déjà pré-complétées. Il y a même de l'EcoVadis, hein. Il y en a deux. Donc, ça aide quand même beaucoup.
Merci beaucoup pour cette présentation. Je m'appelle Kevin, je représente Agendi, on est un cabinet de conseil. Juste pour préciser, pour les indicateurs quantitatifs, il n'y a pas d'obligation nécessaire à expliquer comment ça a été calculé, n'est-ce pas? Si ça a été estimé, par exemple.
Normalement, tous les indicateurs quantitatifs sont très cadrés dans leur définition pour justement enlever toute part de subjectivité. Alors, si on retourne, lâcher dans le social, on va rentrer dans un indicateur, par exemple, sur l'eau ou les ressources. Les ressources sont assez parlants. Toutes les définitions qui sont ici, le poids des matériaux des assemblables, ont une définition assez précise de qu'est-ce qu'on considère comme des assemblables. L'unité, c'est la tonne, Ça, c'est imposé par la CSRD. C'est d'ailleurs une très bonne nouvelle parce qu'il y en a certains qui pilotaient des euros. Sauf que piloter des euros, c'est flou, ça dépend du prix. Alors qu'il faut piloter des poids, des tonnes, des masses pour que ça soit vraiment scientifique et surtout comparable une entreprise à l'autre. Donc ça, la CSRD a tout cadré. Donc normalement, il n'y a pas besoin de justifier votre façon de faire, votre façon de calculer. C'est la CSRD qui vous le propose. Donc ça peut changer la donnée que vous avez actuellement. Ça, c'est la mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que la CSRD va servir de template de base pour toutes les prochaines data ESG. Donc une fois que vous aurez les données de la CSRD, vous n'aurez plus besoin de réfléchir à un prochain CSRD qui sortirait avec 500 data en plus. Ça sera les seules data que vous devrez gérer pour votre reporting, pour vos investisseurs, pour une comparabilité entre deux fournisseurs dans un appel d'offres ou auprès des salariés si jamais ils veulent comparer deux entreprises entre elles. Parce que la CSRD permettra de mettre en place des genres de UCA de la RSE pour comparer les entreprises vu que la data sera open source via l'Europe. Donc ça va servir votre marque employeur, ça va servir votre différenciation de la concurrence. Donc faites-le une fois, derrière ça sera utile.
Oui, je pense que ça vient compléter un petit peu, mais pour clarifier, pour que ce soit bien clair pour moi, donc Géraldine Mezzalira, moi je suis directrice RSE pour Watea, qui accompagne les professionnels dans leur mobilité. La question que j'avais, c'était justement sur la méthodologie de calcul, parce qu'un indicateur pastèque, on le connaît tous, hein, c'est vert à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Pour être sûr de, quand il y a du calcul derrière et que ce n'est pas juste une donnée, comme on voit là, un poids, où là, effectivement, il n'y a pas de calcul à faire, mais quand il y a un calcul, est-ce qu'il y a bien la méthodologie de calcul derrière, c'est-à-dire que tout le monde fait le même calcul pour que les données soient comparables ?
Les calculs type les ratios ou les...
Bah, typiquement un ratio où quand on dit, voilà, quand on fait calculateur empreinte carbone, on est bien d'accord qu'il y a scope 1, scope 2, scope 3. Ouais. On parle beaucoup du scope 1, du scope 2. Le scope 3, comment il est calculé ? On commence où ? On finit où ? Quand on est une société de service, je reviens... Est-ce qu'il faut que je connaisse tous les scopes de tous mes fournisseurs ?
Parce que le scope 3, il n'y a pas de... C'est très compliqué pour les frags hein, de dire que dans telle activité, vous allez avoir ces éléments du scope 3 à mesurer. Ma compréhension de la chose, donc je suis sûr à 80%, je préfère vous le dire, c'est que ça sera l'OTI qui validera si votre bilan carbone est suffisamment complet ou pas. Si jamais vous êtes dans la tech et vous avez omis l'impact du numérique chez les utilisateurs finaux, vous pouvez peut-être le dire, c'est pas dans votre scope 3, mais c'est l'OTI qui validera votre CSRD, qui vous dira oui, c'est suffisamment complet ou pas. C'est pas un outil, c'est pas un cabinet de conseil. Un cabinet de conseil peut aider, mais ce sera le certificateur, l'auditeur qui aura ce rôle de conseil. Okay. Merci. Ouais, sans micro ?
Ma question, elle n'est pas très technique, elle est dans tous ces référentiels. Quel est l'avenir des B Corp, EcoVadis, Unco pour trouver leur place dans un cadre CSRD ? Dominique Cribier, Société Linkwork.
J'avais mon petit avis, mais je vais pas le donner. La plupart des référentiels français sont en train de s'aligner avec la CSRD, les référentiels de label ISO 26000. Mais l'ISO 26000, on est vraiment sur les moyens qui sont mis en place, on n'est pas sur les résultats d'impact. Donc les moyens sont pris en compte. Donc à mon sens, tous ces labels ou EcoVadis vont s'aligner normalement sur la CSRD. Donc ils ne vont pas couvrir toute la CSRD, mais au moins il y aura un peu de concordance, plus que sur le tableau que je vous ai montré. Après, un avenir, je pense que oui, parce que l'avantage d'un système de scoring, c'est de pouvoir donner un contexte à une data, à une intensité, pour pouvoir la comparer. Et dire, ben, au-delà de telle intensité, par produit vendu, par million d'euros de chiffre d'affaires, on considère que vous êtes plutôt impact ou pas impact. Ça, la CSRD ne va publier que des données chiffrées des intensités. Mais il n'y aura pas de top 20% comme le fait EcoVadis. Il n'y aura pas de comparabilité sectorielle qui met un peu de contexte à la donnée. Et ça, le rôle d'un label, c'est de dire cette entreprise est suffisamment bien structurée sur sa RSE pour qu'on considère qu'on met le tampon. Et ça, les FRAG ne le fera jamais. C'est le rôle d'autres acteurs. En tout cas, leur responsabilité en tant que label, c'est de pouvoir au moins s'aligner pour éviter qu'on fasse d'un côté le label et de l'autre la CSRD, mais sans aucun lien, et qu'il a double saisie dans tous les sens. Mais je sais que B Corp, pour l'instant, n'ont pas encore commencé ces transitions parce qu'ils vont déjà publier la nouvelle version 2025. Mais que comme c'est géré au niveau Europe, niveau États-Unis, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'alignement avec la CSRD, mais je sais que tous les labels français, en tout cas, sont en cours. Et l'AFNOR se sert de ZEI pour évaluer ces labellisés. Et donc là, ils sont en plein dedans, voilà, cette harmonisation.
Oui, Camille Blanc, je suis chef de projet IT et chargée de RSE chez Ardis, une entreprise de services numériques. Et moi, j'avais une question surtout sur les normes sectorielles. Est-ce qu'on a un petit peu une visibilité sur quand est-ce que ça va sortir et quels sont les secteurs qui vont être impactés par ça ?
À chaque fois qu'on a parlé des dates de la CSRD, à chaque fois, on s'est trompé. Donc, je crois qu'on aura une version, une première version fin d'année, plutôt décembre. Mais j'en sais pas plus. Enfin, j'ai pas les dates précises en tête pour l'instant et c'est encore en travaux. Je sais que les fringues sont là sur Produrable, on pourra leur demander, mais je pense pas qu'ils auront une réponse très précise non plus. Pour l'instant, en tout cas, moi, personnellement, j'ai pas vu pour l'instant. Mais si quelqu'un a l'info, n'hésitez pas. Oui. C'est une question ou c'est pour répondre à la... Ah, d'accord, bon, voilà la réponse.
Désolée. Donc, Alexia Bottard, du cabinet OnePoint. J'avais des questions sur le fait que, donc là, par exemple, avec votre outil, donc, on voit la collecte de données. Plutôt pour la partie restitution et du coup communication de la CSRD sur le format final, est-ce que vous auriez un peu d'informations sur comment ça se passe ?
Alors, la CSRD devra être publiée comme un rapport RSE standard, mais là-dessus, le format sera quand même assez libre tant que la donnée existe. Par contre, au-delà de ces rapports à publier, il y aura une base de données européenne qui n'est pas encore sortie, qui est encore en train d'être construite, où toutes les datas de chaque entreprise qui sera touchée par la CSRD devront être intégrées dans cette base de données. Ça permettra derrière d'avoir des comparabilités sectorielles, certainement, mais ça permettra aussi à des tiers, je parlais de Yuka, de pouvoir collecter cette information et en faire quelque chose d'accessible au grand public pour guider les choix des consommateurs. Donc ça sera un format HTML, qui nous, il y aura une API pour le pousser sur la plateforme de l'EFRAG, mais pour l'instant, elle n'est pas sortie, c'est encore en cours. Voilà, on n'en sait pas plus. C'est comme pour les ESRS sectoriels. C'est l'entreprise qui devra le mettre dans l'outil. À mon avis, il y aura soit des imports CSV, c'est sûr, soit il y aura des API pour toutes les plateformes de pilotage, voilà, dont ZEI. C'est évident. C'est le format HTML, je crois. Dernière nouvelle, c'était HTML, oui. Ouais.
Oui. C'est bon ?
Oui, là-bas.
Merci. Oui, une question à la bordure de la CSRD. Quel est le lien avec la taxonomie ou les liens avec la taxonomie, les interactions possibles ?
Alors, dans la CSRD, vous avez quelques points de données où ils demandent quel est le chiffre d'affaires qui est aligné avec la taxonomie. Après, la taxonomie, c'est avant tout un outil qui permet de qualifier si c'est un actif financier ou une entreprise et impact ou pas impact. C'est assez différent d'un reporting de durabilité. Dans le sens où dans la taxonomie, on va rentrer par métier, par typologie de produits ou services avec un niveau de détail assez poussé. Et on va cadrer justement ce qu'on considère comme durable, pas durable, un peu comme un label en fait sur chaque type de produit. Là où la CSRD, c'est vraiment montrez-nous ce que vous faites sur les différents enjeux au niveau macro, au niveau de l'ESG de l'entreprise en elle-même. Donc il y a des liens, mais il n'y a pas véritablement de concordance parce qu'on ne va pas forcément mesurer les mêmes éléments. Réponse peut-être décevante, mais c'est celle que j'ai.
Oui. Alors, sur la durabilité, surtout sur les données climat, normalement, est-ce qu'il y a aussi un aspect choix de l'entreprise sur l'avenir ? Comment elle va arriver en 5 ans, 10 ans à diminuer les taux de carbone ?
Pas que sur le climat, au passage, mais il y a des objectifs qu'il faut chiffrer, des trajectoires, et il faut expliquer comment est-ce que vous allez atteindre la neutralité carbone sous le modèle de Paris 2020, la COP21.
L'entreprise a saisi ça en fonction de ses propres données. Il y en a une qui va dire je serai prêt en 2028, d'autres en 2023, d'autres en 2030. Ou est-ce qu'il faut chiffrer
oui,
au moins plus de 5 ans ?
Alors, il faut le chiffrer. Il faut mettre des objectifs chiffrés, expliquer les dates à laquelle vous allez atteindre, et idéalement chaque année. Après, on va d'abord commencer à vous dire est-ce que votre objectif de neutralité est aligné avec les accords de Paris ? Si c'est non, il faut expliquer quand est-ce que vous serez à la neutralité. Mais par défaut, ils considèrent qu'il faut être aligné avec 2050.
J'ai une autre question, si vous voulez bien. Ça n'a rien à voir. C'est sur le rôle de l'OTI.
Excusez-moi, il y avait un...
On dépasse, c'est ça?
Je crois qu'on a le temps peut-être pour trois dernières questions. C'est
Bon. Juste, le rôle de l'OTI, c'est obligatoire, ce que je comprends. Il faut passer par un OTI.
L'OTI devra valider. En effet,
l'entreprise doit faire valider par l'OTI avant de diffuser la CSRD ou elle diffuse d'abord et puis après elle peut corriger.
Avant la diffusion, il faut que l'OTI est validé. Un peu comme la DPEF aujourd'hui. Voilà, c'est important que ce soit certifié avant qu'on en parle. Quoi.
Qu'un dépôt.
Oui, l'avant-dernière question du coup. Si j'ai... Bon, ben comme ça, les deux dernières.
Oui, moi, pour compléter la question d'avant, c'est qui ces OTI, en fait? Est-ce que c'est les mêmes commissaires aux comptes aujourd'hui qui font...
Les commissaires aux comptes, normalement, encore une fois, sur à 80%, 85%, donc voilà, prendre avec des pincettes. Les commissaires aux comptes sont par défaut des tiers indépendants. Donc normalement, le CAC, soit ils seront formés CSRD, pré-CSRD, et dans ces cas-là, c'est bon, soit ils ne seront pas du tout équipés pour, et ils vous le diront assez vite. L'OTI, c'est un peu différent. L'OTI, ça va être un tiers qui n'est pas le commissaire aux comptes. Et un peu comme pour les OTI de mission aujourd'hui, il y a des organismes tiers indépendants qui sont habilités pour vos indicateurs de mission. On aura des OTI qui seront habilités pour les indicateurs CSRD. Ah bah ils sont en plein dedans. Il y en a peut-être ici d'ailleurs, mais dernière question.
Anne de Greenflex, merci beaucoup déjà pour le partage de toutes ces infos. Tu disais au début que Zay proposait un outil pour évaluer la matérialité d'impact. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus? Ou ma question arrive trop tard parce que c'est la fin?
Ouais, bah on a une technologie qui, ça fait 5 ans qu'elle existe, qui permet d'identifier pour chaque entreprise quels sont les KPI matériels et les enjeux matériels pour chaque entreprise, lesquels le sont un petit peu moins. Et à cette matrice de matérialité d'impact, on peut y rajouter le fait de demander aux parties prenantes ce qu'ils en pensent. C'est pas indispensable dans la matrice de la matérialité de la CSRD, mais c'est très très fortement recommandé. Donc faites-le quand même si vous ne l'avez jamais fait. Et à la matrice de matérialité d'impact, qui va s'adapter vraiment à je ne vais pas dire le chiffre parce qu'on va me traiter de Marseillais, mais c'est plusieurs centaines de millions de résultats possibles. On a bien sûr le module de matérialité financière, qui est simplement la centralisation de tous les DR de la CSRD qui touchent à la matérialité financière, risques et opportunités, qu'on a rassemblé dans un module dédié. Et donc normalement avec les deux, si on est assez à l'aise avec ce genre d'exercice, ça suffit. Oui. Si vous ne l'avez jamais fait, encore une fois, Zay ne suffira pas. Il faut faire appel à des cabinets de conseil. On a Parangon qui est juste ici par exemple, qui est un partenaire. Faites-vous un petit peu accompagner, quoi. Voilà. Et je crois qu'on a bien dépassé. Merci à tous. J'espère que c'était un peu plus clair qu'avant le début de cette conf.
Bravo. Et vous pouvez retrouver toute l'équipe de Zay qui vous attend au stand 48 si vous avez des questions, si vous voulez voir un petit peu plus l'interface.
Je ne voulais pas le dire, ça fait vendre le tapis, mais oui, on est là. N'hésitez pas à venir nous voir.
Stand 48.